Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Campus, la radio de l'ULB. Vous écoutez Histoire de savoir, l'émission qui vous aide à mieux comprendre les phénomènes scientifiques. L'émission d'aujourd'hui est consacrée aux sciences exactes.
Cette émission vous est présentée par Max Bouznak et Virgile Snap et est rendue possible grâce à notre technicienne Déborah Fabré.
Aujourd'hui, on va parler d'une activité qu'on fait tous les jours, sans vraiment la comprendre, dormir.
Pourquoi est-ce qu'on dort et surtout, que se passe-t-il quand on ne dort pas assez?
Pour répondre à ces questions, nous avons rencontré un spécialiste du sommeil.
Le docteur Daniel Neuil est médecin spécialisé en médecine du sommeil et somnologue. Il travaille à Erasme et à l'hôpital Chirac de Delta. Il est également enseignant à la faculté de médecine de l'ULB.
On commence tout de suite avec une question simple mais essentielle.
Pourquoi dormons-nous?
C'est une excellente question. Jusqu'à il y a quelques années, quand on posait cette question fondamentale, la réponse un peu... pour évacuer un peu la question, on répondait, mais s'il n'y avait pas de rôle fondamental, ce serait une erreur de l'évolution. Donc, puisque toutes les espèces, en tout cas qui nous sont proches dans la phylogénèse, présentent un sommeil similaire au nôtre, au niveau des mammifères en tout cas. Mais il n'y avait pas de réponse simplifiée, courte, résumée qu'on pouvait donner. Mais ça a changé. Depuis quelques années, on peut dire le rôle principal du sommeil, c'est d'évacuer les déchets métaboliques que notre système nerveux, surtout le cerveau, cumule durant l'éveil. Donc en quelque sorte, au cours de l'évolution, quand les systèmes nerveux sont devenus de plus en plus complexes, il fallait un partage des tâches. Hein. Vous pouvez imaginer ça comme ça, que le cerveau est un système qui est essentiellement consommateur d'énergie durant l'éveil et il régénère l'énergie et il évacue les déchets que cette consommation d'énergie a produit durant l'éveil, il l'évacue pendant le sommeil. Donc, que ce soit du sommeil en journée ou la nuit, mais c'est vraiment pendant le sommeil que spécifiquement sont évacués les déchets. Il faut vous dire que dans les tissus ou les autres organes, il y a un système d'artères et de veines et des systèmes de lymphe qui tournent autour pour évacuer certains métabolites. Au fur et à mesure du temps, quand le cerveau prenait plus de place comme ça dans la boîte crânienne, le système lymphatique du système nerveux central pour le cerveau a disparu. Et c'est le sommeil, en fait, qui fait apparaître de manière fonctionnelle et transitoire un système lymphatique, qui n'existe donc pas de manière structurelle, mais qui existe de manière fonctionnelle. Alors comment ça fonctionne? Ce sont vraiment des petites pores comme ça sur les membranes cellulaires qui s'expriment et qui s'ouvrent uniquement pendant le sommeil. Le sommeil étant, vous pouvez vous imaginer, comme étant une activité plus synchronisée des rythmes cérébraux. Donc ça aussi c'est une caractéristique pour décrire le sommeil en opposition par rapport à l'éveil. L'éveil est une activité... une activité désynchronisée, donc beaucoup de rythmes différents, des fréquences différentes au niveau des activités électriques, des réseaux neuronaux, et le sommeil est plus de synchronisation. Donc, comme s'il y avait un chef d'orchestre comme ça, donc tout le monde joue ensemble, et c'est là que ces petites pores s'expriment. Donc le sommeil sert principalement à évacuer les déchets que notre cerveau cumule durant l'éveil. Alors il y a plein d'autres fonctions évidemment, le sommeil joue un rôle dans la consolidation dans la mémoire, le sommeil joue un rôle dans la régulation du système immunitaire, le sommeil joue un rôle dans la régulation du système cardiovasculaire, le sommeil joue un rôle dans la régulation de l'humeur, etc. Mais le rôle fondamental, le plus important, vital, c'est l'évacuation des déchets.
Dormir donc, ce n'est pas juste se reposer. Le cerveau joue un rôle primordial pendant le sommeil. Il évacue les déchets accumulés pendant l'éveil.
Mais ça reste assez abstrait.
Pendant longtemps, on pensait que le sommeil était un moment où le corps et surtout le cerveau s'arrêtaient presque complètement. Une sorte de mode veille, sans activité réelle, simplement pour récupérer de la fatigue.
Mais aujourd'hui, on sait que c'est tout l'inverse. Pendant qu'on dort, le cerveau est extrêmement actif, il trie les informations de la journée, consolide la mémoire et élimine les déchets accumulés.
Autrement dit, dormir n'est pas une pause, c'est une phase essentielle où le corps et le cerveau travaillent autrement.
Alors concrètement, est-ce qu'on peut dire que notre cerveau est en stand-by durant le sommeil? Qu'en pense Daniel Neuil?
Et donc a posteriori, quand il y a de nouveau activité d'éveil, nous avons instantanément l'impression qu'il y a eu un état de stand-by. Donc le cerveau n'est jamais en état de stand-by, il est actif 24 heures sur 24, c'est juste que les activités changent, et quand il y a effectivement des larges zones, des réseaux neuronaux qui se synchronisent, donc qui synchronisent leur activité électrique, Progressivement, il y a suspension de la conscience. Donc, tous les états intermédiaires sont possibles. Vous pouvez avoir des régions du cerveau qui produisent du sommeil, d'autres de l'éveil. S'il y a suffisamment de régions qui produisent l'éveil, vous êtes conscient, tout en dormant dans certaines régions dont vous n'avez pas conscience, etc. Il y a d'ailleurs des mammifères qui dorment comme ça tout le temps. Tous les cétacés dorment comme ça. Les baleines, les orques polaires, les dauphins, etc. Ils ont ce qu'on appelle un sommeil local. Donc, ce n'est pas juste un hémisphère, c'est ils ont un sommeil local, donc certaines zones produisent du sommeil. Parce que s'ils avaient un sommeil complet, totalement inconscient, ben, ils s'étouffent pendant leur sommeil. Ça ne marcherait pas, quoi. Et notre cerveau, d'ailleurs, est capable aussi de produire ce type de sommeil, sauf que pour nous, c'est vécu fondamentalement comme étant quelque chose d'anormal, dans certaines formes d'insomnie, d'instabilité du sommeil, dans certaines formes d'insomnie très sévères. Ça peut être un truc comme ça, où le patient a l'impression de ne pas dormir du tout, alors que son sommeil est juste totalement déréglé, quoi. Voilà. Donc non, il n'y a pas d'état de stand-by, mais ça a un corollaire pour les demandes de certains patients. Donc un bouton off aussi n'existe pas. Donc un moyen technique, médicamenteux, en fait, ou comportemental, ou combinaison, ou truc et astuce, qui permettrait d'avoir un contrôle sur l'alternance éveil-sommeil, ou pour générer ou induire du sommeil en faisant juste un geste. Ça n'existe pas parce que c'est juste biologiquement impossible. Ça a des implications pour la compréhension de ce que font certains médicaments, etc. Parce que parfois, ça laisse suggérer qu'ils induisent du sommeil, mais ce n'est pas vrai. Donc, il y a des médicaments qui peuvent réduire l'éveil, il y a des médicaments qui peuvent consolider ou soutenir le sommeil, mais l'enclencher, le déclencher comme un bouton on-off, ça n'existe pas parce qu'il n'y a pas ce type d'état pour le cerveau, dans des conditions physiologiques en tout cas.
Donc en fait, pendant qu'on dort, notre corps est loin d'être au repos.
Exactement, il travaille, il régule et il répare.
Mais ce qui est intéressant, c'est que ce travail est organisé.
Oui, le sommeil suit une sorte de structure, c'est ce que le docteur Daniel Neu nous explique.
On considère en général qu'il y a trois phases d'état fondamentaux pour le système nerveux central. C'est l'éveil, et puis deux phases d'état sommeil qui sont couplées sous forme de cycles chez des mammifères comme nous. Et ça, c'est le sommeil lent et le sommeil paradoxal, ou en anglais, on les appelle aussi le sommeil REM ou non-REM, REM pour l'acronyme de mouvement oculaire rapide. En fait, le sommeil lent, donc ça, c'est ce qui prend le plus de place dans le sommeil, c'est ça qu'il y a, ces niveaux de synchronisation de plus en plus importants. Donc le sommeil lent a plusieurs niveaux de profondeur en fonction du niveau de synchronisation, du léger jusqu'au sommeil lent profond. C'est d'ailleurs pendant le sommeil long profond que sont surtout évacués ces déchets dont on a parlé. Et le sommeil paradoxal s'appelle paradoxal parce qu'il y a un paradoxe entre l'activité cérébrale qui est proche, qui est assez proche de l'éveil, donc il y a de la désynchronisation, et ça contraste avec cette allure d'un dormeur qui dort très profondément parce qu'il y a une paralysie musculaire induite. En gros, vous pouvez comprendre ça comme ça. L'activité onirique, les rêves, ça se passe surtout pendant le sommeil paradoxal. Et donc, cette paralysie musculaire, elle protège un peu pour ne pas extérioriser d'un point de vue comportemental certains aspects moteurs du contenu onirique, donc du rêve. Et d'ailleurs, dans certaines maladies neurologiques, il y a une rupture de ce type de mécanisme. Et alors, il y a des extériorisations, des troubles du comportement, etc., du dormeur, qui sont spécifiquement associés à certaines maladies. Donc ça, c'est quelque chose qui fait partie, du coup, de la médecine du sommeil. Voilà, donc le sommeil paradoxal, c'est là que les rêves élaborés se déroulent essentiellement, et donc associé à une paralysie musculaire avec deux exceptions. Les muscles oculomoteurs, donc il y a des saccades oculaires, d'ailleurs c'est pour ça que REM, Rapid Eye Movement Sleep en anglais, les physiologistes anglo-saxons l'ont appelé comme ça. Et les physiologistes français de l'école de Lyon, M. Jouvet, il l'appelait le sommeil paradoxal quand il a étudié des chats et qu'il avait fait ses constatations électrophysiologiques. Donc sommeil lent, sommeil paradoxal, couplé avec des cycles 90-100 minutes au cours d'une nuit. Et la troisième phase d'état, c'est l'éveil. Donc éveil, sommeil lent, sommeil paradoxal. Mais il y a des mammifères où ces trois états ne sont pas comme chez nous, couplés deux pendant la nuit et l'éveil essentiellement pendant la journée. Les rongeurs, par exemple, vous avez les trois phases d'état aussi, mais qui sont un peu réparties autrement sur 24 heures.
On comprend mieux maintenant que dormir n'est pas un état unique et uniforme. Au contraire, notre corps traverse plusieurs cycles, alternant entre éveil, sommeil léger et paradoxal.
Chaque phase a un rôle bien précis, récupération physique, consolidation de la mémoire ou encore régulation des émotions. Finalement, une bonne nuit de sommeil, ce n'est pas seulement une question de durée, mais aussi de qualité et d'équilibre entre ces différentes phases. Mais ça reste malgré tout un peu complexe.
C'est pour ça qu'on lui a demandé, pour résumer, une image simple.
Une comparaison pour mieux visualiser tout ça, une image que Daniel Neuil a évoquée.
Le camion des sacs bleus et des sacs organiques et des sacs jaunes qui passent et qui ramassent tous les trucs partout.
On comprend donc mieux maintenant que l'activité du cerveau lorsqu'on dort, il trie, il nettoie les toxines présentes dans l'organisme.
Finalement, dormir, c'est un peu faire du ménage dans sa tête.
Avant de plonger plus profondément dans le sommeil, on écoute Sweet Dreams de Rhythmix.
Mon cher Virgile, si je te dis que pendant que tu dors, ton cerveau est hyperactif.
Franchement, j'y crois moyen.
Eh bien finalement, dormir, ce n'est pas une perte de temps. Évidemment, c'est indispensable.
Bon, on a compris que dormir, c'était important.
Mais la vraie question maintenant, c'est que se passe-t-il quand on ne dort pas? Que nous dit Dr Daniel Neuil sur ce cas extrême?
Alors, ça c'est difficile à dire. Je pense que la première chose à quand même souligner, c'est que notre seuil de tolérance à la privation de sommeil, même de longue durée, est assez élevé. Et plus élevé peut-être quand même ce qu'on pense, malgré tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Si ce n'était pas le cas, on n'aurait pas survécu comme espèce. Ça fait des millénaires qu'on mène la guerre, par exemple, qu'on est dans des situations où clairement on ne peut pas accorder le temps nécessaire, idéalement, optimalement, au sommeil, dans des situations de stress intense, où nous dormons peu, On peut prendre plein d'autres exemples. Il y a suffisamment longtemps, on était une espèce qui vivait dehors, on n'avait pas d'abri, on devait être tout le temps en mouvement, probablement. Et donc, on ne pouvait pas non plus dormir à notre aise tout le temps suffisamment. Donc, le seuil de tolérance à la privation de sommeil est quand même relativement important, même s'il a des répercussions, des conséquences, et que voilà, je ne me sens pas bien, je suis crevé, épuisé et irritable. Mais dans le sens, à partir de quel moment c'est fatal. Donc c'est difficile à dire parce que la première raison, expérimentalement, on ne peut pas mener ce type d'expérience. Et la deuxième limite, c'est que si on essaye de pousser des privations de sommeil, eh bien le cerveau va répondre surtout par cette localisation du sommeil qui échappe du coup au contrôle de la privation. Donc quelques zones vont produire du sommeil lors de ces privations extrêmes, et donc du coup l'organisme survit quand même. Il existe un modèle d'encéphalopathie à Prion, l'insomnie familiale fatale, où effectivement les gens meurent, c'est intraitable, donc pas de traitement. Et quand la maladie se déclenche, ça peut assez rapidement en fait mener au décès de l'individu. Donc c'est difficile à répondre. Combien de temps un être humain peut être privé totalement de sommeil avant de décéder? Probablement pas très longtemps, une semaine, deux semaines, mais en pratique, ça c'est juste une considération théorique, mais en pratique, on n'arrive pas vraiment à ce type de truc extrême parce que le cerveau s'adapte et fait échapper, entre guillemets, ou dissiper du sommeil par des activités sommeil localisées du cerveau qui échappent, du coup, qui échapperaient même à l'expérimentateur qui essaye de te parler, de te secouer ou je ne sais pas quoi, et qui échappent aussi à la conscience de l'individu qui a l'impression de quand même pas dormir du tout.
Là, ça devient un peu plus concret. On comprend qu'en réalité, le corps humain peut vivre assez longtemps sans dormir.
Oui, mais avec certaines répercussions. Cependant, le cerveau est capable de s'adapter. Il peut faire certaines tâches qu'il effectue durant le sommeil, pendant l'éveil.
Il faut quand même mieux dormir, mais on a tous déjà manqué de sommeil.
Entre le travail, la vie familiale, les amis, on a déjà tous manqué de temps pour dormir correctement. Mais on sous-estime souvent les conséquences. Des conséquences sur lesquelles Daniel Neuil est revenu.
Alors, les conséquences sont multiples, donc ça c'est vraiment lié à toutes les autres fonctions ou toutes les autres interférences, interactions de régulation du sommeil ou du système nerveux central quand il produit du sommeil avec les systèmes périphériques du reste du corps. Quand vous avez une perturbation quelconque du sommeil ou une privation, je pense que les premiers symptômes touchent ce qu'on appelle les fonctions cérébrales supérieures. Les fonctions cérébrales supérieures, c'est les fonctions cognitives et les fonctions liées à la régulation de l'humeur. Donc ça, c'est le premier impact. Irritabilité, réduction de la stabilité de l'humeur, réduction de ce que les psychologues appellent la résilience, par exemple, au stress, la capacité à faire face, gérer, les coping abilities, comme on appelle ça en anglais. Et ensuite, problème de concentration, attention, mémoire, etc. Mais à moyen et long terme, c'est sûr que des privations de sommeil vont finir aussi par impacter d'autres fonctions qui dépendent en partie, donc pour avoir une bonne régulation qui dépendent en partie du sommeil. Donc, facteurs de risque cardiovasculaire, perturbations de la régulation immunitaire, etc. Donc, tout un tas de trucs. Et aussi au niveau métabolique, donc on sait aussi qu'une partie de la régulation de l'appétit et de notre envie de certains types d'aliments dépend de nouveau de certains trucs spécifiques pendant le sommeil. Je veux dire, pour faire court, il y a un lien entre pourquoi parfois quand j'ai mal dormi ou peu dormi, que j'ai des envies un peu bizarres de sucre que je n'ai pas habituellement. Donc ça, c'est directement lié à certaines régulations neuro-hormonales qui, en quelque sorte, tombent à l'eau si le sommeil est perturbé. On voit ça aussi dans certains troubles primaires du sommeil, comme dans les apnées ou quand on les soigne. Ça rétablit certains aspects métaboliques aussi au niveau de la régulation de l'appétit.
Bon, là c'est clair, les conséquences peuvent avoir un vrai impact sur notre vie.
Oui, difficile d'ignorer le contre-coup.
Mais il y a quand même un truc fascinant.
Le fait qu'on ne soit pas tous égaux face au sommeil, mais qu'en dit Dr Daniel Neuil?
D'abord, les besoins quantitatifs de sommeil varient entre les individus, donc comme toutes les variables biométriques, c'est toujours distribué de manière gaussienne. Et la médiane pour notre espèce de cette distribution gaussienne, c'est 7,5. Donc il y a des phénotypes, donc des adultes, après 25-30 ans, ça se fixe, c'est comme la croissance qui se termine à ce moment-là. Donc pour les besoins de sommeil, il y a des petits dormeurs qui ont besoin de 4 heures, 5 heures, et le système n'est pas capable de générer plus que ça en un morceau. Et il y a des personnes qui ont besoin de 9 heures, 10 heures ou plus, et etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que les grands dormeurs, qui ont besoin de beaucoup, malheureusement, sont moins tolérants à la privation de sommeil que les petits dormeurs. On appelle ça la double injustice du grand dormeur. Donc quelqu'un qui a besoin de 10 heures, quand tu lui enlèves systématiquement de manière récurrente 30 minutes, il va souffrir beaucoup plus en journée en termes de lutte contre la somnolence, machin. Il va avoir plus de conséquences, malheureusement, que le petit dormeur qui déjà a besoin que de 5 heures. Si tu lui enlèves une demi-heure, il va assez bien le tolérer. Donc ça, c'est comme ça. Les grands dormeurs sont moins tolérants à la privation. Alors, l'autre partie de la question, pourquoi certaines personnes? Ben ça, c'est comme pour, je dirais, tout et n'importe quoi, comme problème de santé, où il y a un jeu entre prédisposition et facteurs contribuant au déclenchement d'un syndrome ou d'une maladie. Ben pour certains troubles du sommeil, c'est la même chose. Je vais prendre deux exemples. Pour les apnées du sommeil obstructives, ça, ce sont des phénomènes qui prennent leur origine dans le fond de la gorge, eh bien, la morphologie, l'anatomie de la région concernée joue un rôle dans la prédisposition à développer un syndrome d'apnée du sommeil. Donc, une personne prédisposée au niveau morphologique et anatomique, si elle prend du poids, va rapidement développer un syndrome d'apnée du sommeil. Un autre trouble du sommeil sont les insomnies, donc les instabilités du sommeil. Donc, la prédisposition, là, c'est ce qu'on appelle la tendance à l'hyper-éveil. Donc, certaines personnes sont prédisposées à avoir une intensification des systèmes d'éveil et de vigilance plus facile, plus rapide que d'autres. On pourrait traduire ça à l'extrême par des termes psychologiques comme anxiété, stress, etc., en prédisposition, mais préfère le terme plus neutre d'hyper-éveil. Donc, certaines personnes ont une prédisposition à avoir plus d'hyper-éveil ou plus facilement de l'hyper-éveil. Et les systèmes d'éveil, de promotion de l'éveil, et les systèmes dépendants de ce qu'on appelle la pression de sommeil, sont en compétition permanente, 24 heures sur 24. Donc si vous êtes prédisposé à avoir une intensification de vos systèmes d'attention et de vigilance, ce qui va peut-être se manifester dans une situation de stress, donc plus intensément chez un individu A que chez un individu B, vous êtes plus à risque d'avoir une répercussion sur une déstabilisation et ou instabilité du sommeil. Donc oui, donc ça c'est effectivement, il y a des éléments de prédisposition à la base qui font que le risque d'insomnie est plus grand chez certaines personnes que d'autres. Il y a d'ailleurs aussi un effet lié au sexe. Globalement, épidémiologiquement, la prévalence des insomnies, par exemple, donc de ces instabilités du sommeil, fragilité de maintien, irruption d'éveil, éveil précoce ou difficultés d'initiation dans la transition entre éveil et sommeil, et 3 à 4 fois plus fréquent chez les femmes que chez les hommes.
Toi Max, gros dormeur ou petit dormeur?
Ah moi, si j'ai pas mes 8 heures, ma journée commence mal.
Chacun a son propre rythme, et ça explique pourquoi certains galèrent à dormir.
Et d'autres dorment trop.
Alors concrètement, on fait quoi dans ces cas-là?
Alors pour les grands dormeurs qui n'ont pas d'insomnie, donc qui n'ont pas d'instabilité du sommeil, et qui ont un sommeil généralement ressenti et vécu comme étant facile. Alors oui, la sieste, pourquoi pas. Sieste suffisamment tôt dans l'après-midi, je dirais probablement pas après 15h30, et pas trop longue, donc pas plus qu'une demi-heure. Par contre, les siestes sont prohibées, proscrites et à éviter absolument chez les individus qui ont déjà des insomnies ou qui sont à risque d'insomnie. Parce que justement, tout ce qui peut potentialiser leur sommeil, ça peut les aider dans cette compétition en déséquilibre qui fragilise leur sommeil. Et donc, si un insomniaque fait des siestes, aussi dans un but ou une idée de récupération, il va faire pire que mieux.
Bon, pas de solution miracle.
Non, mais au moins, on comprend mieux.
Il y a aussi pas mal d'idées reçues.
Notamment cette peur de mourir dans son sommeil. Et cette peur se retrouve également dans nos rêves, nous rappelle le docteur Daniel Neu.
Il y a quelque chose d'intéressant, c'est que dans les contenus oniriques, les rêves de type un peu cauchemar avec contenu un peu aversif d'un point de vue émotionnel, justement, on ne meurt pas en fait. Donc quand on est dans des situations où la vie est menacée, que quelqu'un menace, je ne sais pas moi, avec une arme à feu ou quelque chose comme ça, en principe, on se réveille justement juste avant qu'on serait à risque de décéder parce que voilà, l'activation du système nerveux autonome végétatif, rythme cardiaque, rythme respiratoire, etc., est tellement intense que ça envoie en fait un feedback par d'autres canaux au cerveau qui va à un moment donné du coup interrompre le sommeil.
Bon, ça rassure.
Oui, je pense qu'on peut dormir tranquille.
Enfin, sauf si on fait une sieste à 18h pendant 3 heures.
Ah oui, la fameuse sieste. Mais qu'en pense Daniel Neuil ?
Alors, vraiment déconseillé chez les personnes qui ont un sommeil nocturne fragile et instable ou aient tendance à faire des insomnies. Pour tous les autres, en principe, quelqu'un de jeune, entre 25 et 65 ans certainement, qui, dont les besoins quantitatifs de sommeil sont assurés, en moyenne, n'a pas besoin de faire des siestes. C'est un peu différent après, on va dire, 70 ans, parce que là, la capacité ou l'aptitude du système à générer tous les besoins de sommeil quantitatif sur 24 heures en un seul bloc se perdent. Et donc, la sieste devient physiologique ou complète physiologiquement les besoins sur la journée. Donc, sinon, pour tous les autres, il n'y a pas de règle. Si ça fait du bien et si c'est chouette, et si j'ai l'occasion de le faire, pourquoi pas. Tant que c'est suffisamment tôt, genre début d'après-midi, et que c'est suffisamment court, 20-25 minutes, quelque chose comme ça.
Donc la sieste, oui, mais avec modération.
Exactement. En fonction des individus, les siestes peuvent être néfastes pour le sommeil. Cela dépend de l'heure à laquelle on la fait, mais aussi de la durée de cette fameuse sieste.
Bon, on arrive à la question que tout le monde attend.
Comment mieux dormir ?
Mais avant ça, on écoute La Nuit Je Mens d'Alain Bachung.
On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. À la station balnéaire, tu t'es pas fait prier. J'étais gant de crin, je zère. Pour un peu, j'ai trempé. Histoire d'eau. La nuit, je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit, je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne. Tes pensées, je les faisais miennes. T'accaparer seulement, t'accaparer. D'estrade en estrade, j'ai fait danser tant de malentendus. Des kilomètres de vie en rose. Un jour au cirque, un autre à chercher à te plaire. Dresseur de loulou, dynamiteur d'aqueduc. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens, et effrontément. J'ai dans les bottes des montagnes de questions, où subsiste encore ton écho. Subsiste encore ton écho. On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. J'étais pas né. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je m'en lave les mains.
J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho.
Après cette pause musicale de Alain Bachung, le docteur Neu nous donne ses astuces pour mieux dormir cette nuit.
Alors, le conseil le plus simple et qui peut paraître peut-être un peu étonnant ou contre-intuitif, c'est que il y a un lien entre le périmètre de marche, le nombre de pas et les effets biomécaniquement favorables au niveau du sommeil. Donc, il n'y a pas d'astuce magique ou truc, parce que justement, il n'y a pas de moyen de contrôle, il n'y a pas de bouton on-off, comme on a dit. Mais le geste le plus simple et en lien le plus direct avec le sommeil, c'est de maximiser autant que possible la posture debout et donc aussi le périmètre de marche. Ça, c'est quelque chose, une généralité. Et si vous avez une activité durant l'éveil essentiellement sédentaire, en posture assise, pour le sommeil, enfin pour d'autres trucs aussi, mais pour le sommeil, c'est pas top.
Facile à dire.
Moins facile à faire lorsque l'on travaille dans un bureau, par exemple, et que l'on reste assis toute la journée. Pas vrai, Max ?
Effectivement, j'essaye de faire mes 10 000 pas quotidiens, mais lorsque l'on manque déjà de temps pour dormir correctement la nuit, ce n'est pas facile de trouver du temps la journée pour marcher.
Et avant de terminer, il reste un mystère.
Quand je rêvais d'aller aux toilettes, un mystère expliqué par le docteur Daniel Neu.
Alors, ça c'est vraiment très classique, c'est pas bizarre, c'est une intégration effectivement de phénomènes donc physiques et via les canaux sensoriels, et que du coup c'est intégré dans le vécu onirique, quoi. De la même façon que vous pouvez déclencher d'ailleurs parfois des énurésies, donc des pertes urinaires pendant le sommeil, en mettant de l'eau, laissant couler de l'eau, ou, enfin voilà, c'est tout des trucs que connaissent les contes scouts et des trucs comme ça, il ne faut pas faire ça évidemment. Mais donc, oui, nous savons que des stimuli tactiles, mécaniques ou autres stimuli sensoriels, bruit, etc., externes ou internes, peuvent être totalement intégrés dans le vécu onirique. Et donc là, il y a du coup une sorte de relation réciproque qui s'installe. Donc ça, ce n'est pas bizarre du tout.
Finalement, le sommeil reste un phénomène fascinant.
Quelque chose qu'on fait tous les jours sans vraiment le comprendre.
Dormir, ce n'est pas une perte de temps.
C'est un besoin vital.
Et pourtant, on le néglige souvent.
Alors la prochaine fois que vous hésiterez entre dormir ou scroller,
vous penserez à votre cerveau.
Merci de nous avoir écoutés.
À très bientôt sur Radio Campus.
I well. the sun.